Interview.
R. Dubois, et c'est l'heure de l'interview avec au studio Camille Dupont-Cayron. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes au service des publics et relations culturelles au musée de Die.
Voilà.
Et vous êtes ici pour nous annoncer le programme établi par le musée sur cette fin d'année, à partir du mois de novembre jusqu'à décembre. Donc un parcours culturel et historique aussi de l'origine de Die, peut-être aussi des jeux de piste et des documentaires, ainsi que des contes et légendes qui seront présentés au public. Le musée de Die est actuellement clos, oui, pour raison de travaux. Donc il y a cette possibilité de découvrir l'histoire de Die autrement,
tout
par
fait,
son musée, et c'est cette proposition qui est faite donc de votre part pour le public. Alors, quel est le maître mot de cette série de rendez-vous que vous présenterez pour cette fin d'année?
Alors là, nous avons donc prévu un panel d'événements qui, il y en a pour tous les goûts, hein, qui est très éclectique. On a appelé cette saison « Entre ombre et lumière » parce que c'est la saison hivernale et parce que nous abordons des sujets très divers. Alors, le premier rendez-vous, c'est demain, vendredi 14 novembre, avec une conférence exceptionnelle sur les symboles gravés du menhir de Die, donc qui date du néolithique, de la préhistoire. Et ce coup-ci, en fait, on fait venir un archéologue d'Allemagne qui a de nouvelles théories, qui a de nouvelles propositions d'interprétation, de façon d'aborder ces symboles, qui est très intéressante et qui commence à faire du bruit dans les milieux archéologiques. Donc c'est un vrai privilège de recevoir le docteur Stéphane Médor demain. Et vraiment, il faut venir. C'est gratuit. C'est à la salle communautaire de l'espace social. Et ça risque d'être fort intéressant.
Justement, ces symboles sur ce menhir de Die, est-ce qu'il y a des résonances sur d'autres territoires?
Oui, et en fait, c'est ça qui est assez fascinant. Et donc, cet archéologue, le docteur Stéphane Médor, en parlera. Mais en fait, nous, ce qu'on a sur le menhir, ce sont des symboles très particuliers. Un, qui est une version schématique qu'on retrouve régulièrement sur les menhirs et les mégalithes gravés bretons, mais aussi du Portugal, ce qui est relativement intéressant. Un peu en Bourgogne aussi, donc on voit qu'il y a des chemins, hein, qu'il y a eu des échanges entre ces populations. Et un autre qui est un amalgame, qui est très mystérieux, on appelle ça, c'est très difficile à décrire, c'est une espèce de... en fait, de loin, on dirait une sorte de vache avec une bosse sur la tête. Donc c'est un symbole un peu carré avec des sortes de cornes. Et lui, c'est un amalgame de plusieurs symboles. C'est-à-dire que si on le divise, si on met l'espèce de truc carré et les cornes, c'est deux symboles qu'on retrouve fréquemment et encore une fois en Bretagne. Mais nous, il est combiné en un seul symbole, ce qui a rendu la lecture très très difficile. Et là-dessus, aussi pour le docteur Stéphane Médor pourra faire des comparaisons et avancer quelques hypothèses.
Justement, ce symbole qui est celui du musée de Die également, ce M.
C'est un symbole qui a été pris en fait sur un chapiteau. C'est pas exactement celui du menhir, mais qui revient souvent parce que à force.
Ces signes ont des significations.
Ces signes néolithiques, très honnêtement, on n'arrivera jamais à leur donner une signification certaine. On ne peut qu'avancer des hypothèses, parce que les hommes préhistoriques n'avaient pas encore inventé l'écriture et ne nous ont pas livré leurs vestiges avec des manuels d'utilisation. Et de fait, ça restera toujours des énigmes, mais c'est ce qui rend aussi la préhistoire si fascinante, c'est que ça fait vraiment travailler l'imagination et l'esprit de recherche.
Et donc, c'est un signe qui date d'environ 6000 ans. Hein.
Exactement, ouais. C'est une énigme de 6000 ans.
À la suite, il y aura ce jeu de piste, hein, qui est proposé du 1er au 31 décembre. Il s'intitulera « Passage de l'hiver », Et c'est dans le cadre des festivités organisées par la ville de Die, Die Fête Noël. Donc, ça sera à l'adresse de tous.
Oui, tout à fait. Donc, ça s'adresse à tous les publics, hein, et que vous soyez seul ou en famille ou avec des amis. C'est un jeu de piste sur smartphone gratuit via l'application Action Bound. Donc, une application gratuite, hein, sur les affiches et sur nos publications internet, etc. On vous livrera le QR code qui vous permettra très vite de le trouver. Et en fait, c'est une petite aventure qui permet de visiter la ville de Die à travers quelques contes et légendes pour la voir autrement. C'est vraiment. Ouais, c'est vraiment un jeu de piste un peu compté, où vous pouvez suivre aussi l'aventure par l'audio.
Voilà. Ça, et donc, ce jeu de piste se réfère à l'histoire de Die.
Voilà, se réfère plutôt à l'imaginaire autour de Die, qui reprend du folklore antique et médiéval et 19e.
Et donc, peut-être qu'il y aura cette histoire de la belle Justine aussi.
Ah. Ne divulgâchez pas tout.
Ah. Mince, je me tairai alors. Et ça s'organise comment d'ailleurs? Parce que c'est sur un jeu qui n'a pas de date spécifique en fait. Voilà. Chacun peut le pratiquer à
loisir. Tout à fait.
Exactement.
Le mettre en pause s'il fait trop froid, aller boire un chocolat chaud, le reprendre ou le reprendre une semaine plus tard, tout à fait. Par contre, il est uniquement disponible en décembre. C'est-à-dire que le 31 décembre à minuit, hop, il n'est plus disponible. Il faudra attendre l'année suivante.
Ce jeu s'élabore avec quel système, justement, cette application Action Bond? C'est une application qui s'enrichit d'informations liées à un territoire, par exemple, pour ensuite proposer ses comptes?
Alors, pas exactement. L'application Action Bond, en fait, c'est un projet allemand qui permet à tout le monde de faire son propre jeu de piste sur son territoire et de le rendre accessible. Donc nous, on a utilisé ça parce que ça nous permettait de pouvoir proposer ce jeu de piste gratuitement plutôt que d'offrir quelque chose de payant qui nécessite sa propre application. Parce que je vous avoue que je ne maîtrise pas trop le développement d'applications.
Non. Il y a aussi Un Gaulois à Nice, un documentaire avec échange à la suite. Ça sera le 11 décembre au cinéma Le Pestel, à partir de 20h. Il y aura donc pour les 1700 ans du Concile de Nice. On peut peut-être préciser que c'est ce qu'est le Concile de Nice.
Oui, bien sûr. Alors, parce que c'est vrai que c'est devenu un peu obscur, surtout si on n'est pas très religieux. Le Concile de Nicée, en fait, c'est le premier grand concile, le premier concile mondial en fait des évêques. C'est une sorte d'assemblée d'évêques qui va mettre en place les fondements de l'Église mondiale qu'on connaît aujourd'hui. C'est la première fois que on a une Église unie qui va commencer à se bâtir sur l'injonction, sur l'invitation, on va dire, de l'empereur Constantin. Et c'est vrai que là, comme ça, on se dit, mais quel rapport avec Die et tout. Mais en fait, c'est parce qu'on avait une superstar dioise qui a participé. L'évêque de Die, Nicaise, à cette époque, donc au 4e siècle, c'est le seul représentant des Gaules, donc du territoire occidental, à participer à ce concile. Donc voilà, c'était le seul Gaulois du concile de Nicée. Et ça. Pour le 1700e anniversaire, c'est intéressant de revenir sur ce qu'est le Concile, sur cette épopée et sur la personnalité de Nicaise, ou en tout cas le peu d'informations qu'on en a.
Alors, ce Concile de Nicée, c'était quelle volonté précisément des représentants religieux de l'époque?
Alors, c'est une grande question et le musée sortira prochainement une vidéo sur le sujet, une longue vidéo. Hein, là, j'en suis à l'écriture encore et ça commence à faire des pages. Donc, exclusivité, vous avez le sujet de la prochaine vidéo. C'est plutôt complexe, mais en gros, c'est la volonté. En fait, parce qu'à cette époque, chaque évêché, chaque évêque et diriger une église différente. Toutes les églises n'étaient pas unies. Donc ça vient d'une volonté d'arrondir les angles, de mettre en place un dogme commun, des comportements communs, des croyances communes, plutôt que de chacun reste divisé dans son coin et commence à faire... y a eu des catastrophes, hein, des guerres civiles, etc. Il y avait des tensions qui commençaient à monter. Donc c'était une manière de poser les bases d'une unicité de l'Église. Et le credo aujourd'hui, le Concile de Nicée aujourd'hui, qui a posé les bases du credo, donc de la proclamation de foi en fait chrétienne. Et c'est la seule aujourd'hui qui est qui unit encore les églises catholiques, orthodoxes et protestantes. Donc c'est vraiment un symbole intéressant d'unicité. Ouais.
Par rapport à ces évêchés avec leur propre église, qu'est-ce qui les différenciait dans le fondement ?
Alors, tout se basait sur le même texte, hein, le Nouveau Testament. Mais en fait, chacun avait ses petites marottes d'interprétation personnelle. Ce qui a mené à des schismes et parfois à des guerres civiles, hein, comme sur les évêchés des provinces africaines de l'Empire romain, et à l'époque du Concile de Nicée sur les évêchés orientaux avec l'évêque Arius, qui considérait que le Christ n'était pas proprement divin, mais issu du divin. Bref, là, je vous parle de détails. Vous comprendrez beaucoup plus facilement en venant voir donc ce documentaire qui est proposé par le réalisateur Jean-Marie Marsay, qui sera présent et qui pourra répondre à toutes les questions de la salle juste après la projection de ce documentaire, en présence aussi du conservateur du musée de Die, qui pourra apporter plus d'informations aussi sur l'évêque Nicaise lui-même. Et sur le contexte historique et politique, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux politiques aussi derrière ce concile.
Il y a aussi à la suite, donc, Angerunalia, Contes et légendes des longues nuits. Alors, on peut peut-être préciser ce titre.
Alors, en fait, là, avec le conteur David Le Bard, nous projetons de faire une sorte de veillée de contes qui font frissonner. Angerunalia, en fait, c'est les Angerunalia, c'est une fête antique. Parce que autour de la période qu'aujourd'hui on appelle Noël, dans l'Antiquité, c'était les Saturnales. Donc c'était une sorte de grande débandade. C'était à mi-chemin entre Noël et le carnaval. C'est les esclaves devenaient les maîtres, les gens se déguisaient, se défoulaient, buvaient, s'offraient des cadeaux. Et... à côté de ça, dans l'ombre, il y a cette déesse mineure, Angerona, qui en fait est une déesse du silence et du secret, qui rassemble toute sa volonté pour combattre les ombres et les nuits qui s'allongent, qui commencent à gagner de plus en plus l'hiver, et ramener le soleil le jour du solstice, c'est-à-dire le 21 décembre. Et donc voilà, on a voulu en fait faire une petite célébration pour rappeler un petit peu ce combat contre les ombres et en fait faire une sorte de mini défouloir et d'évoquer des contes qui font un peu peur pour combattre les longues nuits et en rire ensemble.
Ces sources d'enseignement proviennent de quel texte ?
Il y en a plusieurs, là je vais pas, j'ai pas la liste de sources à vous proposer.
Est-ce que, le Concile de Nicèse, est-ce que c'était établi, ou enfin, ces représentations étaient établies en latin, par exemple
Les Angerunalia, oui, c'est une fête connue. Nous, on en fait une version moderne, hein, parce que c'était pas des contes et légendes qui étaient proposés aux Angerunalia. C'était, nous, on prend l'idée, en fait, pour faire une occasion de se raconter des histoires dans la nuit et ramener le soleil.
David Le Bard, peut-on le présenter d'ailleurs ?
David Le Bard, c'est un guide et un conteur qui réside à Saillant, qui est irlandais d'origine et donc qui va nous proposer d'ailleurs plusieurs contes et légendes qui font frissonner d'Irlande, du folklore irlandais.
Les propositions émanent principalement d'histoires très anciennes, hein, de dits. Est-ce que à la suite, il y aura aussi peut-être une chronologie qui se rapprocherait de la nôtre?
Vous voulez dire des événements qui traitent de sujets plus modernes?
Ou qui tendent au Moyen-Âge?
Ah oui, bien sûr.
Oui, par la suite. Hein,
par la suite,
travail.
Oui, bien sûr. Oui.
D'ailleurs, votre activité, Camille, au sein de ce musée de Die, quelle est-elle précisément dans la recherche même?
Alors, moi, je suis le service des publics, c'est-à-dire que je m'occupe de faire le lien entre les collections et leurs connaissances scientifiques et le public, et tout ce qui a un rapport avec le public. Je suis une sorte d'interface, d'intermédiaire qui permet de présenter les choses pour que ce soit accessible à tous et engageant. Parce que parfois, voilà, des suites de dates, de noms, c'est compliqué à assimiler et même à s'y intéresser. Donc voilà, mon travail, c'est de faire cette interface.
Et donc, vous répondez à une demande du public sur des sujets particuliers?
Bien sûr, si le public a des attentes, tout à fait. Mais il faut, voilà, je m'occupe de la médiation donc d'un musée archéologique municipal. Donc il faut que ce soit en lien avec notre activité principale.
Et je pensais notamment des personnes qui rénovent leur maison ou des bâtiments anciens et qui se retrouvent avec des signes peut-être historiques. Est-ce que c'est le moment de vous interpeller sur les sujets?
Oui, toujours. Oui. Là, on est toujours très intéressé par la collecte de connaissances. Hein. C'est hyper important, en fait, parce que c'est avec l'apport de chacun qu'on arrive à construire une base de données la plus exhaustive possible. Parce que dites-vous qu'on a encore énormément de choses qu'on ne connaît pas sur le passé de Die. On ne connaît pas exactement l'organisation de la ville dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, par exemple. Il y a des choses qui nous échappent. Bah forcément, hein, parce que chaque génération a bâti sur et avec les ruines des précédentes dans l'enceinte des remparts. Donc évidemment, on est assis sur des millénaires et des millénaires d'histoire. Et dès qu'on creuse quelque part, en général, on trouve.
On avait pu remarquer ça lors de la réfection de la place de la République, hein, où il y a eu une période de fouilles et où on a découvert justement des pièces peintes même, donc enterrées.
Oui, tout à fait. Il y a des trésors sous terre et pas qu'un peu, oui.
Et puis, il y a aussi une proposition, en fait, pour plutôt les scolaires. C'est le programme pédagogique, hein, hors les murs, puisque le musée est enfermé. Et ça se rapporte à des activités ou des visites. Et donc, c'est un éveil sur l'histoire. Mais quel est le sens qui est donné pour les enfants?
Alors, pour les enfants, du coup, et les publics scolaires, on s'attache à essayer de s'accorder à leur programme. Et c'est pour ça qu'on propose diverses activités, donc hors les murs, hein, pour l'instant, forcément, jusqu'à la réouverture prochaine du musée. Pour les visites pures, la mosaïque médiévale des Quatre Fleuves, qui se situe dans l'ancien palais épiscopal, un tour de ville sur le patrimoine remarquable de Die, le tour des remparts. Et pour ce qui est plus des activités, et en général, les établissements aiment bien conjuguer les deux, on a un jeu de piste, encore une fois, virtuel pour les collégiens lycéens, sur Actionbound encore. Et un jeu de piste, par contre, avec des livrets pour les primaires. On a quelques ateliers, etc. Et puis, on est très ouvert aux propositions des enseignants. S'ils veulent qu'on crée sur mesure une activité ou une visite qui soit en lien avec des travaux qu'ils font en classe, par exemple, ou avec un thème qu'ils ont dans l'année. Je sais que cette année, il y a le thème de l'eau qui circule beaucoup pour les CM2. Nous sommes tout à fait disposés et même enthousiastes à l'idée de travailler conjointement avec les enseignants.
Il y a un atelier proposé également, se défendre comme un Romain.
Oui.
Donc, vous vous référez donc à un savoir-faire martial de l'armée romaine et qui est peut-être aussi considéré aujourd'hui par les forces de l'ordre.
Oui, tout à fait. C'est utilisé par les efficace. CRS. Ouais, en fait, c'est effectivement un petit atelier. On a fait faire quelques petites reproductions de boucliers romains. Et on propose, en fait, après une petite session explicative, aux enfants d'essayer de reproduire le geste de se défendre, de former les... Hop, de se défendre ensemble, en fait, de former ce qu'on appelle dans Astérix la tortue, vous savez. Et en fait, et de leur lancer des trucs en mousse dessus pour voir s'ils tiennent bien leur position. Donc voilà, c'est un atelier taper les enfants, mais avec des objets en mousse. Donc moi, je trouve ça marrant.
Et puis il y a ce jeu de piste aussi, hein, le flou historique. Alors c'est proposé avec une application qui s'intitule Ira. C'est une narratrice.
Ah oui, oui. Bah, alors non, c'est le résumé. C'est sur l'application Action Burn encore, et c'est ce dont je parlais. C'est le jeu de piste pour les collégiens et les lycéens. Oui, tout à fait.
Et d'accord. Justement. L'intelligence artificielle prend sa place aussi dans le domaine de l'histoire. Est-ce que c'est un référentiel efficace ?
Aujourd'hui, pas du tout. Non. Là, justement, en fait, c'était ce jeu de piste. Le pitch, c'est que c'est une. Dans le scénario, j'incarne effectivement une. Je sais même plus. Ira, c'est intelligence relativement artificielle. Voilà. Et c'est pour se moquer un petit peu de ça. Et non, j'ai essayé, j'ai regardé, j'ai testé un petit peu diverses. Application d'intelligence artificielle.
Conversationnelle, ouais.
Voilà, pour voir si elles avaient une utilité via notre domaine. Mais non, c'est absolument pas possible.
Ça reste plutôt dans les généralités, hein, on me dira tout.
Bah, c'est pire que ça. Hein. Ça invente des sources ou des faits. Non, c'est une catastrophe. Il faut surtout pas, pour les domaines scientifiques, et notamment l'histoire, il faut surtout pas, aujourd'hui, se référer aux intelligences artificielles.
Voilà, avec 33% ou voire 40% d'hallucinations la part de cet outil. Et puis, le musée en lui-même est en chantier. Est-ce que, d'ailleurs, ça a été pour vous des sources de découvertes dans cette réflexion ?
Non, parce qu'on a refait la toiture, et sur la toiture, à part des tuiles cassées, il n'y avait rien
de très
intéressant.
Mais j'imaginais peut-être d'autres réflexions.
En fait, là, on attend, si le musée n'est toujours pas rouvert, la toiture est terminée, mais en fait, nous attendons le démarrage des travaux intérieurs, parce qu'on a subi d'importants dégâts des eaux. On a des bouts de plâtre qui tombent un peu des plafonds. Et du coup, voilà. Donc, on devrait maquiller un petit peu l'intérieur, histoire que le musée redevienne présentable avant d'être rouvert.
Sur le site du musée, est-ce qu'il y a justement un complément d'informations ? Si on s'y promène, on peut y trouver des présentations de ce qui existe dans les musées. Le musée du Die du Diois, c'est un livret qui permet de découvrir un peu les collections du musée.
Oui, tout à fait. C'est un petit livret de visite qui est téléchargeable gratuitement, disponible sur le site internet, qui permet effectivement de se familiariser avec les collections et le contexte général historique.
Et vous le documentez au fur et à mesure aussi
Bien sûr, c'est un travail qui ne s'arrête jamais. Ça, c'est la recherche et la documentation des collections. C'est toujours c'est un travail titanesque, en fait, et qui ne fait que progresser plus la science historique avance.
Vous-même, par rapport à cette notion d'histoire, là, on peut voir que beaucoup de propositions émanent plutôt de l'Antiquité. Est-ce qu'il y a un désir aussi de communiquer sur d'autres périodes du Diwa, peut-être plus modernes ?
Ah oui, tout à fait. C'est effectivement l'Antiquité. Bah, très honnêtement, c'est le gros de nos collections et c'est l'apogée de Die comme cité. C'était à l'époque une capitale de territoire. Donc c'est vrai que c'est une période qui est fascinante à aborder. Mais par contre, le musée en lui-même a des collections qui datent du néolithique moyen jusqu'au 20e siècle. Donc oui, il y a énormément de périodes à aborder. C'est vrai que l'Antiquité, c'est un peu la valeur sûre. Ça fascine tout le monde. Mais nous proposons aussi des événements et des choses sur d'autres périodes historiques, bien sûr.
Et notamment la période après la Révolution, avec une présentation d'objets qui ont appartenu ou qui ont été peut-être même fabriqués sur le Diwa, et qui sont des sources d'informations. Par exemple, cet ex-voto aussi, je ne sais pas s'il est toujours situé au-dessus des vitrines, qui permet à des bateliers de partir avec cette bénédiction.
La croix de Marigny, tout à fait. Oui.
Il y a des objets comme ça qui intriguent aussi, peut-être.
Bien sûr, on a des chouettes collections. Là, j'en prends un qui m'a toujours fait rigoler. Ça date du 19e siècle. C'est une espèce de chope pour boire du vin qui a la tête d'un sénateur, en fait, qui est la caricature d'un sénateur. Et en fait, c'est littéralement un pot de vin. Et c'était pour dénoncer, en fait, un sénateur que la population estimait comme corrompu. Et du coup, je trouve ça plutôt rigolo. Voilà.
Et justement, ces objets, est-ce qu'ils rapportent une période? On peut s'arrêter sur celle après la Révolution. Est-ce que la ville de Die avait eu un essor économique assez conséquent sur le territoire? Ou c'était plutôt une zone un peu retirée dans cette enclave
Non, ça, là, en fait, après le collapse de Luc en Diwa au XVe siècle, le Diwa s'est énormément paupérisé. Hein. Donc non, il n'y a pas eu d'essor économique majeur après cette période.
Et puis ensuite, ce sont arrivées les entreprises que l'on a connues, Barral et autres. Les prochaines ouvertures du musée sont prévues pour quelle période? Vous n'avez pas de date encore?
Alors non, on n'a aucune date définie. Dans le meilleur des cas, mais là, à ce stade, ça devient de l'optimisme très poussé, ce serait de rouvrir pour le printemps 2026. Mais on devrait rouvrir quoi qu'il arrive l'année prochaine, mais il est possible que cette ouverture soit repoussée à l'été.
Il y a le centre de documentation, Henri Desailles aussi. Oui. C'est cette salle où se trouvent tous les ouvrages qui se réfèrent. C'est un trésor pour vous.
Ah oui, non, mais évidemment, c'est important et ça centralise la documentation historique du territoire. Et un peu au-delà. Et il est toujours accessible, d'ailleurs, sur rendez-vous. Il suffit de nous téléphoner ou de nous envoyer un mail pour nous préciser à quelle date et quelle heure vous souhaitez venir. Et vous pouvez venir consulter nos ouvrages.
Un centre de documentation, donc très organisé. Et à toute demande, vous pouvez répondre assez rapidement. Tel ouvrage pourrait être référé?
Alors, moi... Bah, incroyablement.
C'est plutôt Monsieur Planchon.
Oui. C'est le conservateur du musée qui est à lui tout seul l'inventaire de la bibliothèque qui saura pointer dans la très bonne direction. Moi, je peux pointer dans des directions générales, mais pas dans le détail.
Et il y a aussi tous ces objets qui étaient entreposés dans la cour ou dans d'autres salles ont été déplacés et donc sur un nouveau lieu, je crois.
Alors. C'est-à-dire que du fait des travaux, sur la toiture, il a fallu faire passer une grue dans le jardin. Et le jardin était un espace d'exposition des collections au même titre que nos salles, avec plusieurs objets antiques et quelques-uns médiévaux. Donc, on a dû déménager les objets de la cour, du jardin, ainsi que d'autres à l'intérieur qui comportaient des risques, en fait. Et là, du coup, après les travaux intérieurs, tout sera réaménagé, et notamment le jardin qu'on compte revaloriser. C'est-à-dire on a resélectionné les pierres et on va l'organiser de manière plus lisible que ce qu'il n'était, on va garder la même atmosphère, mais de manière un petit peu plus cohérente, de façon à ce que les gens, quand ils visitent, puissent avoir une meilleure compréhension de ce qu'ils regardent.
On peut parler justement de ce bâtiment.
Le musée lui-même date de la toute fin du 19e siècle, 1895, mais à l'époque, il était dans une salle de la mairie. C'est après le décès et la donation de l'ancien maire de Die, Joseph Reynaud, que le musée s'est installé en 1949 dans le bâtiment actuel, voilà, qui était son ancien hôtel particulier.
Et il y a, je découvrais ce projet aussi de déménager ce musée à l'ancienne mairie de Die.
Oui, tout à fait. Alors ça fait 24 ans, très exactement, que ce projet a été entamé et n'a jamais abouti, hein, faute de moyens, tout simplement. C'est effectivement, le but était de déménager le musée actuel dans l'ancien palais épiscopal de Die, qui comprend effectivement l'ancienne mairie de Die et l'espace social, le bâtiment qu'occupe aujourd'hui l'espace social, de manière à ce que ce soit plus historiquement cohérent, parce que là, on serait dans un lieu chargé d'histoire, on redonnerait un aspect un petit peu plus médiéval, son aspect plus original à ce bâtiment, et ça nous permettrait aussi de mieux valoriser et protéger la mosaïque des quatre fleuves qui se situe à l'intérieur du palais épiscopal, et d'avoir un espace de présentation des collections plus adapté.
Oui, parce que sur les plans de prévision, on peut remarquer des fenêtres en ogive. C'était à l'origine tel quel. Mmh. Et est-ce que la réhabilitation actuelle a caché cet aspect roman ?
Alors oui, non. Alors là, aujourd'hui, l'ancien palais épiscopal ne ressemble plus du tout à un palais épiscopal, parce que tout simplement, c'est un bâtiment qui s'est transformé avec les usages. Alors, il faut se dire aussi qu'il était en mauvais état dès le XVIIIe siècle. L'évêque de Die n'y a pas habité si longtemps que ça, parce que l'évêché de Die, comme l'évêque de Valence et l'évêque de Die, n'arrêtaient pas de se tirer dans les pattes. Le pape a fini par réunir les deux évêchés en pensant que ça allait apaiser un peu les tensions. Ça n'a pas marché. Hein. Et du coup, l'évêque de Valence et de Die, pendant des siècles, n'a fait que des visites à Die. Et n'a pas vraiment habité son palais. Il a laissé un peu croupir. Et quand les deux évêchés de Valence et de Die ont à nouveau été séparés, un évêque a dit revenu s'installer dans ce palais qui était dans un état lamentable. Et là, on a une documentation très intéressante que l'archéologue Marie Caillet a beaucoup étudiée, qui est en fait un maître d'œuvre est passé en notant tout ce qui n'allait pas. Et du coup, ce nouvel évêque a rénové un petit peu ce palais. Mais voilà, pour vous dire que c'était déjà pas la panacée au XVIIIe siècle. Et ensuite, quand le bâtiment a été, au XIXe siècle, récupéré par la commune, il a eu plusieurs usages administratifs publics. Hein, ça a été un tribunal, et puis pendant longtemps, effectivement, l'ancienne mairie. Donc forcément, c'est un lieu qui a vécu et qui a été transformé en fonction de ses fonctions, justement, de son usage. Et donc aujourd'hui, tout son aspect médiéval a disparu. Et ce serait intéressant de le lui redonner un petit peu.
Pour vous, il y a beaucoup de travail encore en perspective. D'ailleurs, quelle est votre formation principale ?
Alors, j'ai fait beaucoup trop d'études. J'ai un master de droit et j'ai un master de l'école du Louvre, donc en histoire de l'art et muséologie.
Et pour vous, il y a beaucoup à faire sur le Diwa.
Oui.
Et
oui.
À découvrir encore.
Ah oui, non, c'est historiquement, c'est incroyablement riche. Ah oui, c'est moi, je suis pas d'ici, donc j'ai vraiment tout découvert en arrivant. Et j'ai été étonnée et même émerveillée par la richesse historique et patrimoniale de ce territoire. Ouais.
Camille Dupont. Héron, merci beaucoup d'être venu sur RDIWA pour nous annoncer cette saison de fin d'année au musée de Die. J'invite les téléspectateurs à se rendre sur le site internet museedodie.org pour y découvrir toutes les propositions.
Merci et à bientôt.